nous sommes le jeudi 6 juin. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le mariage contrarié de Renault et Fiat Chrysler. Devant le peu d'empressement de l'État français, le groupe italo-américain a décidé cette nuit de retirer son offre, mais continue d'y croire. Décryptage après les autres titres, Agnès.
Un deuxième coup de théâtre en quelques jours chez les Républicains. Valérie Pécresse quitte le navire. Une journée de mobilisation nationale dans les services d'urgence après 3 mois de mouvement. Les cérémonies du D-Day et les souvenirs intacts des habitants de Saint-Laurent-sur-Mer. Et puis rien ne va plus pour Neymar, accusé de viol et blessé à la cheville.
Les invités d'Inter ce matin. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas.
7h50.
Il était le dernier empereur de la mode. Karl Lagerfeld s'est éteint en février dernier, emportant avec lui une vie de secret et de mystère. Grand reporter au Monde, elle a tenté de percer les dernières énigmes de la star et publie cette semaine un portrait admiratif et féroce. Kaiser Karl chez Albin Michel. Raphaël Baquet vient nous présenter son livre en exclusivité à 7h50.
A tout à l'heure Léa. 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'avocat François Sureau. On parlera du 75e anniversaire du débarquement de Normandie et puis de la France. 75 ans après. Vos questions dès maintenant. 01 45 24 47 000.
France Inter.
Les bans étaient donc publiés, mais le mariage n'aura pas lieu, en tout cas pas tout de suite. Fiat Chrysler a en effet retiré durant la nuit sa proposition de fusion avec Renault, estimant que les conditions politiques n'étaient pas actuellement réunies en France pour mener à bien ce rapprochement. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Le groupe italo-américain n'a visiblement pas apprécié les réticences du constructeur français.
Et notamment de son actionnaire à 15%, l'État, qui veut se laisser encore un peu plus de temps, un délai assumé de sources gouvernementales ce matin. Nissan, lors du conseil, a expliqué qu'ils avaient l'intention de s'abstenir si le vote avait lieu hier soir. Or, Bruno Le Maire se rend justement au Japon en fin de semaine pour le sommet du G20. L'occasion de discuter tout ça en face à face, parce que Nissan est le partenaire historique de Renault, parce que Nissan, associé au projet, l'ensemble formé avec Fiat et Renault, produirait demain 16 millions de véhicules, soit le double quasiment des volumes que réaliseraient Français et Italiens s'ils restaient entre eux. Il n'y a aucune raison d'agir de manière précipitée pour le gouvernement. Par ailleurs, attentif au maintien de l'emploi sur les sites français, prenons le temps pour faire les choses bien, avait encore insisté hier d'ailleurs Bruno Le Maire.
Fiat Chrysler qui affirme cependant être toujours très intéressé.
Fiat Chrysler reste fermement convaincu de la logique évidente de cette alliance avec Renault. C'est ce que déclare le constructeur italo-américain dans un communiqué publié dans la nuit. Les défis de demain dans l'automobile sont immenses, on le sait, avec le passage à l'électrique. Fiat est en retard sur la question. Renault, avec la Zoé, a été pionnier et peut faire profiter Fiat de son expertise. Les différents protagonistes pourraient d'ailleurs se retrouver très vite, selon une source du côté de Renault. Bruno Le Maire veut un nouveau conseil d'administration, peut-être dès mardi prochain, à son retour du Japon.
Merci Maxime Debs.
Il est 7h03, la politique aussi connaît ses alliances, ses revirements et ses trahisons. Et
hier soir, nouveau coup dur pour le parti Les Républicains avec le départ de Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France était l'invitée du 20h de France 2.
J'ai décidé de quitter Les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. Parce que le parti est cadenassé de l'intérieur. Il est cadenassé dans son organisation, mais il est aussi cadenassé dans ses idées. Vous savez, ça fait trois ans que je plaide pour un changement de ligne et un changement de stratégie. J'ai plaidé pour l'élargissement de la droite. On a eu le rétrécissement. J'ai plaidé pour la clarification vis-à-vis de tous ceux qui, aux Républicains, susurrent qu'on ferait bien d'aller faire une alliance avec l'extrême droite. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans le parti, qui sont aux responsabilités dans le parti, y compris les parlementaires, ne souhaitent pas aujourd'hui ouvrir une réflexion sur la France d'aujourd'hui.
Et plusieurs de ses proches lui ont aussitôt emboîté le pas, Florence Portelli, Robin Reda ou encore Maëlle de Calan. Mais les caciques du parti dénoncent une décision incompréhensible au moment où une nouvelle ère débute avec le départ de Laurent Wauquiez. Et Julien Aubert, député LR du Vaucluse, y voit une manœuvre très personnelle.
Sur le déchirement, j'ai cru, si vous voulez, que comme dans la Reine des Neiges, Valérie Pécresse était libérée, délivrée. Mais je crois que c'est plus de la comédie de l'art que de la politique. Et qu'en réalité, elle cherche à habiller son départ d'oripeaux idéologiques, alors qu'en réalité, il s'agit juste d'une tactique. Je pense que Valérie Pécresse se dit qu'il faut qu'au régional, elle soit réélue, que l'étiquette LR ne l'aide pas, que pour avoir une attitude conciliante d'Emmanuel Macron, il vaut mieux être sans étiquette ou être dans un parti plus proche, et que de toute façon, elle n'aurait pas l'investiture des Républicains pour la présidentielle. Je crois que c'est juste ça, et pas du tout un clivage idéologique, même si effectivement il y a des différences de ligne. Je crois que dire en bloc tout est déverrouillé, que même sans le revoquer, que les autres parlementaires l'empêchaient de parler ou l'empêchaient d'agir, c'est un petit peu caricaturé.
Propos recueillis par François Rosy. Les élections pour la présidence du parti devraient avoir lieu, selon Le Figaro, les 12 et 19 octobre prochains. Journée d'action nationale des urgentistes aujourd'hui. Voilà bientôt 3 mois que le mouvement a commencé. Il touche désormais 80 services selon le collectif. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, devrait faire des annonces aujourd'hui lors du congrès des urgentistes. Annonce très attendue, Lisa Guyenne.
Les patients et les soignants sont en danger. Le message se répète dans de nombreux services d'urgence depuis le mois de mars, mais rien n'y fait.
C'est devenu un stade tellement avancé que vraiment tout le monde est à bout.
Alexia est infirmière depuis 2 ans et demi dans les urgences d'un grand hôpital parisien.
Quand je suis arrivée, on avait des périodes où on avait un peu plus de calme, où on pouvait un peu se poser. Et aujourd'hui, concrètement, toute l'équipe est à bout, on est tous épuisés.
Résultat, la prise en charge se dégrade et les patients sont à bout de nerfs.
La violence verbale, c'est tous les jours.
Laura est l'une des collègues d'Alexia.
En fait, on passe des journées, on ne s'arrête pas une seconde, on voit que les patients, malgré tout ce qu'on peut faire, on fait vraiment notre maximum et on voit que les patients ne sont pas bien, parce qu'on ne peut pas en fait.
En début de semaine, 10 de soignants de Lariboisière ont posé des arrêts maladie et ne sont pas venus travailler, mais la plupart des grévistes restent en poste et assurent le service minimum, ce qui rend la mobilisation presque invisible aux yeux du grand public. Romane en grève depuis 3 mois.
On ne peut pas se faire entendre dans la rue tous ensemble en bloquant toutes les urgences et en fermant le service. Donc les gens, je pense, ne se rendent pas compte parce que pour eux, on est là, on travaille et rien ne change.
Les 3 collègues espèrent que le gouvernement se saisisse enfin de la question et redoute, disent-elles, un nouveau drame. Il y a 6 mois, une patiente mourait aux urgences de l'hôpital Lariboisière après avoir passé 12 heures sur un brancard.
Et un rassemblement est prévu à 13h à Paris, à Montparnasse et sur franceinter.fr. Reportage sur la situation aux urgences de Lons-le-Saunier.
Il est 7h07, Agnès. 6 juin 44, 6 juin 2019, les Alliés célèbrent le 75e anniversaire du débarquement.
La météo était mauvaise aussi ce jour-là sur les côtes normandes. Le débarquement a même dû être retardé de 24 heures. Et le 6 juin 44, ce sont donc 150 000 soldats américains, britanniques et canadiens qui ont débarqué sur les plages françaises. 10 000 vont y perdre la vie. Les vétérans seront à l'honneur, bien sûr, tout au long de la journée. Mais les civils aussi se souviennent, notamment les habitants de Saint-Laurent-sur-Mer que Béatrice Duguay a rencontré.
Dire qu'Henri Ouivet était aux premières loges ce 6 juin 44 est un doux euphémisme.
Le temps était maussade, bas, sombre, et puis il y avait de la brume sur la mer. On voyait rien du tout. Et d'un seul coup, ça s'est dégagé. On a vu tous ces bateaux arriver vers nous.
La ferme de ses grands-parents n'est qu'à 200 mètres de la plage, à vol d'oiseau.
Et je les vois encore. Jamais vu autant de bateaux de ma vie. C'était exceptionnel. Hein. Féerique, oui. On a su tout de suite que c'était le débarquement. Là.
Pas de doute non plus pour Simone Lemierre, 17 ans à l'époque, alertée par les vols d'avion la veille.
On entendait bien les obus partir de la mer. Ça passait sur nous.
Il y a 3 ou 4 obus qui ont passé à travers le toit de la ferme. Je venais de faire ma communion, alors ma grand-mère, très croyante, faisait des prières en attendant que ça se passe.
Simone a carrément aménagé un abri dans son hameau pour y héberger une 30aine de voisins. Et c'est là qu'elle voit le premier Américain arriver.
On l'a vu que le 7 à 8 heures le matin, et il nous a mis avec un fusil.
Bonjour.
Oui, on avait une grand-mère qui était au bout, la grand-mère dit, mais français, français, puis elle a jeté son mouchoir. Il ne nous a rien fait, il est parti.
Simone, quitte pour la peur, n'a jamais vu de cadavre lors de ce débarquement. Henri, lui, a réalisé l'étendue du carnage sur la plage quelques jours plus tard.
Des cérémonies qui prendront un tour très diplomatique après les cérémonies au cimetière américain de Colville-sur-Mer, tête à tête et déjeuner de travail pour Donald Trump et Emmanuel Macron. Et puis ce sera la dernière apparition officielle pour Theresa May qui doit démissionner demain. Washington condamne Sudan, les récentes attaques contre les manifestations au Soudan qui ont fait, selon un nouveau bilan, plus d'une centaine de morts et appellent à l'organisation d'élections à une date appropriée. À Khartoum, l'opposition refuse l'offre de reprise du dialogue proposée par les militaires au pouvoir. Le président Bolsonaro a beau soutenir la star de foot brésilien, l'étau se resserre autour de Neymar, accusé de viol par une jeune femme. Les faits se seraient déroulés dans un hôtel parisien le 15 mai dernier. La jeune femme a d'ailleurs accordé une interview hier soir à la télé brésilienne. Anne Vignat.
On sait désormais son nom, on connaît son visage et son témoignage. Najila Trindade Mendes de Souza a parlé pendant 13 minutes à un journaliste de la chaîne SBT pour donner sa version de cette nuit dans cet hôtel à Paris, bien différente de celle de Neymar.
Quand je suis arrivée là-bas, Neymar était agressif, très différent de la personne que j'avais connue en échangeant des messages. Mais bon, comme j'avais très envie d'être avec lui, j'ai pensé, je vais gérer ça. On a commencé à se caresser, tout allait bien. Mais après, il a commencé à me battre, à me faire vraiment mal. Je lui ai dit, arrête, ça fait mal. Et je lui ai demandé, tu as des préservatifs? Il a répondu que non. Alors je lui ai dit qu'il n'allait rien se passer de plus. Et là, il m'a retourné, il a commis l'acte, et je lui ai demandé d'arrêter. Et alors qu'il commettait l'acte, il me frappait sur les fesses, violemment.
La jeune modèle de 26 ans sera entendue ce jeudi par la police qui dispose déjà des photos des blessures qu'elle attribue à Neymar. Le joueur du PSG devra lui s'expliquer vendredi à la police civile sur la divulgation des photos intimes de la jeune femme sur les réseaux sociaux. Rio de Janeiro, Anne Vignat, France Inter.
Une interview diffusée une heure avant l'entrée sur le terrain de Neymar pour une rencontre entre le Brésil et le Qatar et le joueur est ressorti rapidement après s'être tordu la cheville. On espère finir le tournoi dimanche. Guy Forget se veut optimiste après une journée blanche à Roland-Garros hier en raison de la pluie. Les deux quarts de finale hommes et les deux quarts de finale dames sont donc reprogrammés aujourd'hui.
Et on termine, Agnès, avec un succès inattendu, celui de la pêche à l'aimant.
Pas vraiment un sport, Nicolas. Pas non plus un passe-temps comme les autres. La pêche à attire les écolos qui veulent dépolluer les rivières, les chercheurs de métaux à l'affût de la bonne trouvaille et les traditionnels pêcheurs du dimanche. Un loisir donc pas encore réglementé, Marius Delaunay, mais qui fait un tabac sur les réseaux sociaux.
Hey, ça vient.
C'est quoi ?
C'est une trottinette !
Le youtubeur Chris Detec ne pêche pas de poissons dans sa vidéo, seulement des objets faits de métal. Pas de canne à pêche, juste une très solide corde en nylon avec un aimant au bout. Depuis 6 mois, ses vidéos cumulent des millions de vues sur YouTube, mais Chris Detec l'assure, il ne le fait pas pour l'argent, plutôt par conviction.
Avant tout, c'est un geste écolo, c'est exactement le fait de ne pas savoir ce qu'il y a sous l'eau et ce qu'on est susceptible de trouver. Jusqu'au moment où ça arrive au bord de l'eau et que... Et là, c'est... Ah, on a un vélo, on a une trottinette. Ah, bon, on a une petite cuillère, mais bon, on fera mieux la prochaine fois. Mais en attendant, tout ce qu'on sort, ben, on le sort de l'eau.
Un geste écologique qui commence à avoir ses adeptes, en grande partie grâce à toutes ses vidéos YouTube. Un aimant coûte jusqu'à 120 euros et peut tracter jusqu'à 800 kilos. Melvin de Rouen en vend dans son magasin parisien, la maison de la détection. Il reçoit des commandes de toute la France.
C'est la folie. Franchement, on doit être à plus de 2000 euros vendus en 6 mois. Il faut savoir qu'on est en permanence en réapprovisionnement. Donc en fait, sur 6 mois, j'ai dû avoir 3 mois de rupture de stock. Il y a un loisir clairement qui se crée là-dedans. C'est une autre façon de pêcher, mais c'est une pêche 2.0 actuelle.
Les prises des pêcheurs sont rarement revendues. Elles sont la plupart du temps envoyées dans des conteneurs et recyclées quand elles peuvent l'être.
Et au hit parade des trouvailles dans la Seine, les vélos et les trottinettes.
Merci Agnès Soubiran.